Dans notre marche avec Dieu, il y a des moments où tout va bien, et puis il y a des moments où les choses sont plus difficiles. Et c'est la même chose dans notre vie, hein. Il y a des moments où on n'a pas de difficultés particulières, et puis d'autres où on a l'impression que là où on est en train de mourir quelque part. Et il peut arriver que dans la vie, sur le plan, pas simplement sur le plan imagé, hein, mais en réalité, qu'on peut être amené à évoluer dans des milieux dangereux pour notre santé, parce qu'il y a là des gaz toxiques ou alors des poussières radioactives ou cancérigènes. Et lorsqu'on est dans un milieu comme cela, qui est très dangereux pour nous, il y a deux manières de procéder pour ne pas être atteint par ce qui est toxique pour nous. Ce qui semble la méthode la plus naturelle, c'est de mettre en place une barrière étanche, une protection entre nous et puis ce qui est dangereux pour nous. Le problème, c'est que c'est en général très compliqué à faire, parce que pour créer une barrière vraiment protectrice, hein, il faut y mettre de gros moyens, surtout si en plus on est amené à se déplacer. Voilà, construire un bunker étanche autour de nous, c'est déjà compliqué, mais si en plus on n'a pas l'intention de vivre toute notre vie ici, ça devient beaucoup plus difficile de mettre une barrière comme ça qui nous protège. En plus, c'est toujours très risqué parce que une barrière, et même les barrières les plus épaisses, les plus solides, finissent toujours par se fissurer, se percer. Et là, elles deviennent moins efficaces. Et alors après, il faut de gros moyens pour réussir à faire ressortir ce qu'a réussi à traverser la barrière. Il y a une autre manière de procéder qui, elle, aborde, je dirais, le point de vue opposé. On ne va pas chercher à faire le vide de ce qui est dangereux autour de nous, mais à faire le plein. À faire le plein de bonnes choses pour nous. Notre environnement immédiat, on y met de bonnes choses pour nous. Ainsi, comme notre environnement immédiat est trop rempli, il n'y a plus de place pour que des choses mauvaises ou dangereuses pour nous pénètrent. C'est mieux quand je mets la télécommande en marche. Voilà, c'est la technique en fait, c'est le moyen qu'utilisent les sapeurs-pompiers lorsqu'ils doivent intervenir dans des milieux toxiques. Et en fait, alors c'est peut-être pas très élégant, mais c'est extrêmement simple à mettre en place. C'est une sorte d'imperméable. Et tout simplement, les bouteilles d'air que l'on respire, au lieu que l'air soit expulsé à l'extérieur de cette enveloppe, elle est expulsée à l'intérieur. Et ça crée une surpression de l'intérieur vers l'extérieur. Cet air, en fait, c'est toujours des fuites là-dessus. C'est une fuite permanente, sauf que l'air qui est vers l'intérieur, une très légère surpression, se dirige vers l'extérieur. Et ça vous permet, en fait, d'être complètement protégé. Rien ne peut pénétrer parce qu'il n'y a plus de place à l'intérieur. Et même si vous faites un trou ou une déchirure sur une combinaison comme celle-ci, vous êtes encore protégé. Ce n'est pas très coûteux, ce n'est pas techniquement compliqué à mettre en place. Cela ne vous prive pas de vos mouvements, contrairement à ce que serait de se mettre dans une sorte de char blindé et étanche. Avec cela, vous pouvez continuer à aller de l'avant, à vivre et à intervenir dans un milieu qui est toxique. Eh bien, dans notre marche avec Dieu, c'est un peu la même chose. Nous évoluons dans un milieu qui est hostile pour nous. Le monde dans lequel nous vivons n'est pas un milieu favorable à notre relation avec Dieu, à notre foi. Et tous, il nous arrive d'être confrontés à des difficultés qui semblent nous menacer, hein, un jour ou l'autre, qui semblent menacer soit notre relation avec Dieu, soit notre marche avec lui. C'est ce qui risque de nous arriver, ou parfois même c'est ce qui nous a déjà atteint. Et peut-être qu'en ce moment, nous ressentons que nous ne sommes pas en bonne santé spirituelle. Des choses qui ne vont pas dans notre vie, voire même que intérieurement, nous pouvons nous sentir vides, secs. Il n'y a plus rien en nous. Cette flamme, cette présence de Dieu qui habitait en nous, on ne l'aperçoit plus. Alors que faisons-nous dans ces moments-là? Donc le plus naturel serait de faire, de construire une barrière protectrice, infranchissable autour de nous. Mais une telle protection est épuisante à mettre en place. Elle a un autre inconvénient, c'est que ça nous coupe de tout. Lorsqu'on se protège, on est coupé de tout, pas simplement des bonnes choses, pas simplement des mauvaises choses, mais aussi des bonnes. Et puis surtout, elle a un gros inconvénient, c'est que cette barrière de protection n'est pas en mesure de remplir notre vide intérieur. Elle ne nous apportera donc pas une protection suffisante, elle n'est pas la solution. Eh bien, ce que nous dit la parole de Dieu, c'est que le meilleur moyen d'être fortifié en notre être intérieur, ce n'est pas de faire le vide, c'est de faire le plein. C'est d'être rempli de toute la plénitude de Dieu. Et j'ai intitulé ce message « Soyons remplis de toute la plénitude de Dieu ». Et je vous invite à ouvrir vos Bibles au 3e chapitre de la lettre aux Éphésiens. Si vous n'avez pas de Bible, il y en a à votre disposition, là-bas, sur le présentoir. Et si en plus vous prenez cette Bible, l'avantage, c'est que si vous l'ouvrez à la page 768, vous tombez directement sur le passage. Éphésiens chapitre 3, et je commencerai ma lecture au verset 16. Et c'est une prière que Paul adresse à Dieu le Père pour les chrétiens de la ville de Éphèse. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie pour que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capables de comprendre, avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Alors avant d'aller plus loin, simplement il faut déjà préciser un peu ce qu'il faut entendre par être rempli de toute la plénitude de Dieu. Alors être rempli de toute la plénitude de Dieu, c'est avoir reçu de Dieu tout ce qu'il veut nous donner spirituellement. Il ne nous manque rien, nous sommes remplis par tout ce que Dieu lui-même nous a accordé spirituellement. Alors la première question que l'on peut être amené à se poser, c'est « Mais pour être rempli de toute la plénitude de Dieu, avons-nous besoin de le rechercher ? Avons-nous besoin de chercher à faire le plein auprès de Dieu ? Parce qu'après tout, Dieu n'est-il pas souverain, tout-puissant ? Et c'est à lui, seulement à lui, de nous remplir de sa plénitude. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Notre rôle n'est-il pas simplement de nous contenter de recevoir ce que Dieu veut nous donner ? Notre rôle, c'est de recevoir. Le rôle de Dieu, c'est de nous remplir. Il y a quelque chose de sagesse derrière cela. Il est vrai qu'il n'y a que Dieu et Dieu seul qui peut nous remplir de toute sa plénitude. Mais comment pourrait-il le faire si de notre côté, nous n'allons pas faire le plein auprès de lui ? N'y a-t-il pas un manque de sagesse de notre part ? Ou bien alors peut-être un peu de paresse ? Ou bien une pointe d'orgueil d'imaginer et d'espérer que Dieu nous remplira malgré nous. Quoi que je fasse, Dieu me remplira, c'est son job. Voilà ce que nous dit la Bible de Jésus. Cela est dit en Colossiens 1,19. Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Jésus n'était pas simplement rempli de toute la plénitude de Dieu, la plénitude de Dieu faisait partie de sa nature. Elle habite constamment en lui. Eh bien, même Jésus a mis du temps à part pour se tourner vers son Père. Par exemple, Luc 6,12, Jésus se retira sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Alors nous-mêmes, nous sommes peut-être extrêmement occupés, et extrêmement occupés à faire des choses importantes. S'occuper de notre famille, de notre travail, de notre service pour Dieu. Et nous sommes tellement occupés que nous n'avons pas le temps de prendre du temps avec Dieu. Mais nous nous disons, « Ah, mais ce que je le fais pour Dieu. Je n'ai donc pas besoin de m'arrêter. » En toute chose, nous devons nous poser la question, « Que ferait Jésus s'il était à ma place ?» Et que voyons-nous que Jésus faisait ? Jésus prenait du temps avec son Père. Jésus était un homme extrêmement occupé. Jésus avait une mission extrêmement importante à accomplir. Jésus était sollicité de toutes parts par des personnes qui comptaient sur lui afin de satisfaire leurs besoins extrêmement importants. Et malgré cela, Jésus a pris du temps. Et ce temps était forcément pris au détriment d'autre chose. Il a pris du temps pour se tourner vers son Père. Si Jésus a fait cela, est-ce que nous n'aurions pas besoin d'en faire autant ? Jésus dit en Matthieu 10, 24, « Le disciple n'est pas supérieur au maître, ni le serviteur supérieur à son Seigneur. » Nous ne sommes pas supérieurs à Jésus, notre Seigneur. Et quelle que soit notre vie, quelles que soient les choses extrêmement importantes que nous faisons, et toutes celles extrêmement importantes qui nous restent à faire, nous devons être conscients que si nous voulons être remplis de la plénitude de Dieu, nous avons besoin de faire le plein auprès de Dieu. Et vous savez, ce qui va suivre et ce que j'exprime là, je ne dis pas avec arrogance. Et je vois plusieurs visages qui sont conscients de ça et qui sont tristes, et moi je suis également triste. Parce que dans ma vie, c'est une vraie difficulté. C'est une vraie difficulté que d'aller faire le plein auprès de Dieu. Mais ce n'est pas parce que quelque chose est difficile qu'il n'est pas bon et qu'il n'est pas sain de le faire. Et dans ce que je vais développer par la suite, je disais ce matin à Cathy d'ailleurs, je disais, ce que je vais dire ce matin, il faut que je l'applique à ma propre vie. Nous avons besoin de faire le plein auprès de Dieu. Et que ce message ne soit pas décourageant, mais perçu comme étant la sagesse qui vient de Dieu et la main que Dieu nous tend, parce que Dieu nous donne des occasions de faire le plein auprès de lui. Nous avons besoin de faire le plein auprès de Dieu. Et plus nous sommes confrontés à des difficultés, plus nous sommes pris par toutes sortes de choses, plus nous nous sentons menacés, fragiles, vulnérables, secs, plus nous avons besoin de venir faire le plein auprès de Dieu. Parce que notre système de défense naturelle, notre système de défense, je dirais, instinctive de fonctionner, qui consiste à nous couper de ce qui nous menace, à faire le vide en nous, autour de nous, n'est pas suffisant pour nous remplir de toute la plénitude de Dieu. Faire le vide n'est pas suffisant pour nous remplir de toute la plénitude de Dieu. Et faire le vide, c'est souvent ce que nous faisons lorsque nous sommes confrontés à trois situations que tout chrétien rencontre fréquemment. Nous rencontrons cela lorsque nous sommes tentés par le péché, lorsque nous sommes blessés intérieurement, ou lorsque nous sommes confrontés à des situations épuisantes. Lorsque nous sommes tentés par le péché et que nous avons à cœur de marcher avec Dieu, nous cherchons souvent à chasser la tentation de notre esprit. Nous cherchons à faire le vide dans notre tête. Ah, il faut que j'évacue cette pensée de ma tête. Et nous pouvons parfois y arriver au prix de beaucoup d'efforts, au prix de beaucoup de volonté et de concentration. Le problème, c'est que cette discipline mobilise toutes nos pensées et que nous avons alors de la difficulté à penser à autre chose. Faire le vide dans notre tête ne suffit pas à remplir notre tête des pensées de Jésus. Et si faire le vide nous permet de ne pas succomber à la tentation, cela ne nous délivre pas de la tentation pour autant. Mais Jésus ne nous a pas simplement promis la victoire sur le péché. Jésus nous a également promis une chose, c'est d'en être libéré. Et faire le vide n'est pas suffisant pour nous libérer de la tentation du péché. Il nous arrive tous d'être blessés, de nous sentir un jour rejetés, humiliés par quelqu'un. Et là, selon notre tempérament et la situation dans laquelle nous sommes, nous réagissons différemment. Hein. Parfois, ça peut être, nous ressentons une tristesse douloureuse, une dévalorisation de soi. On a l'impression qu'on n'a pas de valeur. Et ça nous amène à un repli sur nous. Ou bien au contraire, ça peut provoquer chez nous un sentiment de haine, de dévalorisation, mais de l'autre ce coup-ci, et une soif de vengeance. Puis souvent, on est même capable de faire les deux à la fois. Hein. Dévalorisation de nous, de l'autre aussi, et chercher à se venger tout en se coupant. Nous cherchons alors, lorsqu'on est conscient que ce n'est pas la volonté de Dieu, nous cherchons alors à chasser ces pensées destructrices ou autodestructrices de notre cœur. Et là, nous cherchons à faire le vide dans notre cœur. Non, je ne ressens rien. Et nous pouvons parfois y arriver, et nous pouvons parfois réussir ainsi à empêcher de remonter ce que nous ressentons au plus profond de notre cœur. Hein. On anesthésie tout. Le problème, alors, c'est que notre cœur est tellement étouffé et anesthésié qu'il nous est alors difficile de ressentir quoi que ce soit d'autre. Faire le vide dans notre cœur ne suffit pas pour que notre cœur soit rempli de l'amour de Jésus, ni pour que notre cœur soit capable d'aimer comme Jésus. Dieu ne s'est pas engagé à nous donner un cœur de pierre, un cœur insensible, mais il s'est engagé à nous donner un cœur de chair, un cœur capable d'aimer. Faire le vide dans notre cœur n'est pas la solution pour que notre cœur soit rempli de l'amour de Dieu. Dernière situation, lorsque nous sommes confrontés à des personnes ou bien à des situations qui nous épuisent intérieurement, et ça arrive hein, parfois ça, là on a besoin de faire une coupure. Nous avons besoin de prendre un peu de repos, de prendre un peu de vacances, et quand c'est possible, de nous éloigner. Nous cherchons à faire le vide autour de nous. Et nous pouvons y arriver dans une certaine mesure si nous avons les moyens de prendre le large. Le problème dans tout cela, c'est que cela ne va durer qu'un seul temps, qu'un petit temps. Une parenthèse. Le repos ou les vacances ne sont qu'une petite parenthèse de notre vie. Et une fois la parenthèse fermée, nous retrouvons dans le même état d'épuisement intérieur. Faire le vide autour de nous ne suffit pas à nous ressourcer intérieurement. Le projet de Dieu pour nos vies n'est pas que nous soyons vides, n'est pas que nous soyons spirituellement secs. Le projet de Dieu pour nous, c'est que nous soyons au contraire rempli de toute sa plénitude. Alors je ne dis pas hein, qu'il ne faut jamais faire le vide dans nos pensées, dans notre cœur, dans notre environnement. Cela peut s'avérer parfois utile et même salutaire. Parce qu'il y a des situations de notre vie où si nous voulons marcher avec Dieu, il nous faudra faire le vide. Mais nous devons également être conscients d'une chose, hein, c'est que faire le vide est en règle générale une solution d'urgence, une solution à court terme qui nous évitera la chute ou bien le naufrage spirituel. Mais faire le vide ne nous fortifiera pas intérieurement. Seul Dieu est en mesure de nous fortifier intérieurement. Et c'est ce que nous dit notre passage au verset 16. « Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur. » De sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. C'est Dieu qui, par son esprit, nous donne d'être fortifiés intérieurement. C'est en habitant en nous que Christ nous fortifie. Mais par quelle manière Dieu nous remplit-il de toute sa plénitude? Quel est le moyen que Dieu va mettre en œuvre pour que nous soyons pleinement fortifiés par son esprit dans notre être intérieur? Et des fois, on peut espérer que voilà, Dieu va nous donner une mesure de l'esprit qui va être capable de nous faire cela. Mais le texte nous dit que nous avons déjà son esprit. Il est déjà en chacun de ses enfants. C'est par un autre moyen que Dieu a prévu de nous remplir de toute sa plénitude. Et ce moyen, c'est par la connaissance de l'amour de Christ que Dieu nous remplit de toute sa plénitude. Connaître et comprendre l'amour par lequel nous avons été aimés, l'amour par lequel Jésus nous aime et l'amour par lequel il nous aimera éternellement. Christ nous a aimés, il nous aime et il nous aimera toujours. Rien n'a pu, rien ne peut et rien ne pourra nous arracher à son amour. L'immense amour de Christ, c'est ce que Dieu veut que nous comprenions, c'est ce que Dieu veut que nous connaissions afin de nous remplir de toute sa plénitude. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que quoi ? Afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. C'est par la compréhension et la connaissance de l'infini amour de Christ pour nous que Dieu veut nous remplir de toute sa plénitude. Et cela signifie que, aux yeux de Dieu, savoir que Christ nous aime est tout ce dont nous avons besoin pour marcher avec lui. Le centre de ce que nous devons savoir, c'est que nous avons été, nous sommes aimés et nous serons aimés par Christ. Dans notre marche avec Dieu, nous avons tendance, lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, à faire le vide dans nos pensées, dans notre cœur ou dans notre environnement. Eh bien, Dieu voudrait au contraire qu'en tout temps, en toute occasion, nos pensées et notre cœur soient constamment remplis de cela. Jésus m'a aimé, Jésus m'aime, Jésus m'aimera toujours. Reprenons les trois situations que tout chrétien rencontre dans sa marche avec Dieu, la tentation du péché, les blessures intérieures et les situations épuisantes. Et voyons ce que cela peut changer de connaître l'amour de Christ. Lorsqu'un péché nous semble attractif, lorsque nous sommes tentés d'y succomber, plutôt que de nous épuiser à vider nos pensées de la tentation, tournons nos pensées vers Jésus et réalisons à quel point Jésus nous a aimés. Et il nous a tellement aimés qu'il a dû sacrifier sa précieuse vie pour le prix de notre péché. En réalisant ça, comment pourrions-nous trouver attractif une horreur qui a coûté la vie de notre bien-aimé Seigneur ? Vous imaginez-vous que vous puissiez profiter, je ne sais pas, d'une journée de votre vie qui a coûté la vie d'une autre personne ? Non, ça nous semblerait, mais on ne peut pas profiter de ça. On en percevrait à quel point l'horreur du prix qui a été payé pour cela. Eh bien, lorsque nous sommes tentés par le péché, souvenons-nous du prix que Jésus a payé pour ce péché et réalisons à quel point il nous a aimés. Le péché perd de sa saveur lorsque nous réalisons qu'à cause de lui et par amour pour nous, Jésus a offert sa vie. Et c'est à ces moments-là que l'amour de Christ nous libère de la tentation du péché. Ce n'est pas simplement qu'il nous donne la capacité d'y résister, c'est que nous en sommes libérés parce que nous voyons le péché dans toute son horreur. Le péché a coûté la vie de notre bien-aimé Seigneur. Lorsque nous avons été blessés, rejetés ou humiliés, notre cœur souffre, ça c'est normal. Et que cela conduit à nous dévaloriser à nos propres yeux, ou bien à tourner notre colère vers les autres, plutôt que de chercher à étouffer ces mauvaises choses qui sont dans notre cœur, réalisons à quel point Christ nous aime. Et nous avons tellement de valeur à ses yeux, nous sommes tellement précieux pour lui, qu'il a donné sa propre vie en échange de la nôtre. Vous vous rendez compte? À quoi est-ce qu'on mesure la valeur de quelque chose? Au prix qu'il a sur le marché. C'est ça qui fait la valeur d'une chose. Nous doutons parfois de la valeur que nous avons parce que nous avons été blessés par un tel, nous avons l'impression de ne pas être aimés, pas être compris, de n'être rien. Lorsque nous réalisons le prix que nous avons, Jésus a donné sa vie pour nous. Le Père a offert son propre Fils pour nous racheter. Voilà la valeur que nous avons aux yeux de Dieu. Lorsque nous sommes conscients de cet amour de Christ pour nous et de la valeur que nous avons à ses yeux, nous ne sommes plus dépendants du regard des autres sur nous. Bien sûr, nous préférions être aimés par tout le monde. Mais si les autres ne nous aiment pas, à partir du moment où nous savons que nous sommes aimés par le Dieu Tout-Puissant, le Créateur qui nous connaît, qui nous voit, alors cet amour-là est capable de nous permettre d'aimer les autres, même si eux-mêmes ne nous aiment pas. L'amour de Christ nous libère de la dépendance des autres et nous permet de les aimer, même si ces personnes nous ont blessés. 1 Jean 4, 19 nous dit, nous aimons, et comment est-ce que nous sommes capables d'aimer? Nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Savoir que Christ nous a aimés nous permet d'aimer les autres. Dernier point, lorsque nous sommes confrontés à des situations épuisantes et que nous réalisons que nous sommes vides intérieurement, et réalisons que nous n'avons pas simplement besoin de repos, nous avons aussi et surtout besoin d'être ressourcés, d'être remplis par Dieu intérieurement. Ce matin, nous avions quelqu'un en téléphone qui avait un mois de vacances, donc tant mieux pour lui, qu'il en profite pleinement. Mais au téléphone, on lui a dit, mais tu ne vois pas simplement des vacances reposantes, mais des vacances ressourçantes. Pour que les vacances ne soient pas simplement une parenthèse, mais que nous puissions, au cours de ces vacances, de ce temps de repos, être ressourcés intérieurement, d'être remplis par Dieu. Et le moyen par lequel Dieu veut justement nous remplir de toute sa plénitude, c'est par notre compréhension et notre connaissance de l'amour de Christ. Nous avons donc besoin de venir faire le plein auprès de Dieu. Allons faire le plein auprès de Dieu, afin qu'il nous remplisse de toute sa plénitude. Donc la question que nous voulons nous poser, ce n'est pas « est-ce que j'ai besoin de faire le plein ?» mais c'est « comment vais-je aller faire le plein auprès de Dieu ?» Parce que nous avons tous déjà expérimenté, tous sans exception, que s'il y a des périodes de notre vie où, voilà, l'amour de Christ, on en est convaincu, on sait, il est là. Mais on sait que nous sommes également oublieux et qu'il y a des circonstances de notre vie où nous n'aurons plus cette conscience-là. Nous avons besoin de revivre cela, de nous souvenir de cela. Comment raviver en nous le souvenir de l'amour de Christ? C'est ce que nous allons voir maintenant par quelques pistes. Alors ce ne sont que quelques pistes et il vous appartiendra de prolonger ces pistes et d'en ouvrir d'autres. La première piste, c'est que si nous voulons que Dieu nous remplisse de toute sa plénitude, nous devons, c'est déjà ce que je répète depuis le début, mais nous devons tout d'abord décider d'aller faire le plein auprès de lui. Ça paraît évident. Mais pourtant, quelle décision avons-nous prise? Et qu'est-ce que nous avons concrètement, je ne parle pas en théorie, qu'est-ce que concrètement nous avons mis en place pour faire le plein auprès de Dieu? Et trop souvent, moi je le vois dans ma propre vie, le constat c'est que je n'ai rien mis en place, ou bien alors rien de suffisamment solide, ou alors je ne le fais pas assez souvent ou pas assez longtemps. Pensez, qui ferait de nous un long voyage en voiture sans s'arrêter régulièrement pour faire le plein d'essence? Personne. Personne ne ferait ça. On sait que si on part pour faire un long voyage, il va falloir qu'on fasse le plein. On doit s'arrêter pour faire le plein. C'est-à-dire que sur notre route, on doit anticiper de se dire, il faudra que j'aille m'arrêter à un endroit comme cela pour faire le plein. Eh bien, dans notre marche avec Dieu, nous sommes parfois moins avisés que lorsque nous conduisons notre voiture. Parce que nous allons de l'avant avec le Seigneur, mais nous n'avons pas planifié de station pour faire le plein. Ou alors pas assez souvent. Et est-ce que nous devons attendre que nous soyons vides ou que nous tombions en panne sèche pour faire le plein? Et nous savons tous à quel point il est beaucoup plus difficile d'aller faire le plein lorsque nous sommes dans un état comme ça. Parce que faut y aller à pied, il faut pousser la voiture, on ne sait pas où il y en a. Et on est déjà fatigué. Si vous regardez en vous-même, à votre avis, quel est votre niveau de remplissage? Est-ce qu'il est temps pour vous d'aller faire le plein ou pas? Le bon sens dans notre marche avec Dieu nous dit que si nous voulons aller loin avec Dieu, si nous voulons aller de l'avant, si nous ne voulons pas connaître ce vide intérieur, cet assèchement, il nous faudra aller faire le plein avant de tomber en panne sèche. Qu'est-ce que concrètement vous avez mis en place? Qu'est-ce que concrètement vous pouvez mettre en place pour aller faire le plein? Concrètement, c'est-à-dire comment, quand, où? Voici simplement une deuxième piste. Puisque c'est par la compréhension de la connaissance de l'amour de Christ que Dieu nous remplira de toute sa plénitude, qu'est-ce que Dieu a mis en place? Quel est le moyen par excellence que Dieu a mis en place pour nous aider à comprendre et à connaître l'amour de Christ? La Bible et le Saint-Esprit. Et la Bible n'est pas un livre ordinaire, c'est la parole de Dieu, c'est-à-dire c'est ce que Dieu veut nous dire. C'est ce que Dieu veut que nous sachions et que nous connaissions. Et grâce à son esprit qui est en nous, Dieu rend sa parole vivante. C'est bien ça que nous voulons, c'est vivre avec Dieu. La parole de Dieu est vivante, c'est ce que nous disons fréquemment. Eh bien alors, mettons-le en pratique dans notre vie. Cela nous a été rappelé ici il y a quelque temps. Dans l'Ancien Testament, tout conduit à Christ. À Christ, à savoir cet amour qu'il a eu pour nous sur la croix. Et dans le Nouveau Testament, tout part de Christ. La Bible est là pour nous parler de l'amour de Christ. À quelle fréquence, à quel moment allons-nous faire le plein grâce à la parole de Dieu? Quand avez-vous ouvert la Bible pour la dernière fois? Quand allez-vous le faire? C'est même plus important, c'est quand allez-vous le faire la prochaine fois? Ce qui est derrière est derrière. Quand est-ce que vous allez prendre ce temps? Troisième piste, nous sommes oublieux de ce que Jésus a fait pour nous. Mais il nous faut parfois peu de choses pour que cela nous revienne en mémoire. Et on a la chance d'avoir différents moyens pour le faire. Peut-être que chanter des cantiques, ou bien écouter de la musique chrétienne, francophone si vous ne parlez que français, anglophone si vous avez cette chance-là, mais à quel point ça nous fait du bien. Moi je le sais, mais régulièrement je dis, mais je vais faire un break, je vais me mettre quelque chose qui va m'aider à me rappeler de l'amour de Christ. Ah, ça fait un bien formidable. Il existe aussi de nombreux témoignages de gens qui nous rapportent ce qu'ils ont connu avec Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui est également pour nous, qui peut nous encourager. Nous pouvons également prendre le temps de nous rappeler dans notre propre vie ce que Dieu a fait pour nous. Et là, vraiment l'intérêt de noter, d'avoir un cahier, de noter nos prières, de noter les réponses à nos prières, et de regarder en arrière, de voir ce que Dieu fait. Et moi, je suis surpris de voir que les écrits me rappellent des choses que moi, j'avais oubliées. Mon Dieu est un Dieu qui est fidèle, un Dieu qui m'aime et qui prend soin de moi. Quels sont les moyens que nous utilisons pour nous aider à nous rappeler de l'amour de Christ? Et quatrième et dernière piste, nous sommes tellement occupés par toutes sortes de choses importantes que nous avons du mal à nous arrêter pour faire le plein. Ne serait-il pas temps pour nous de respecter le repos et le sabbat de Dieu? Un jour de la semaine où nous cesserons de produire. où nous serons capables de nous arrêter. De nous arrêter même de faire des choses pour Dieu, dans le but de goûter au repos que Dieu nous offre, et aussi de passer un temps de qualité avec Dieu. Nous ne sommes plus sous la loi. Mais n'y a-t-il pas une mesure de sagesse dans cette notion de repos de Dieu? Un temps de ressourcement. Et moi, je dois vous avouer que c'est mon combat en ce moment. Parce qu'on s'est rendu compte avec Cathy que donc je me prends une journée de congé dans la semaine, mais que cette journée, en fait, elle était remplie par tout ce que je n'ai pas eu le temps de faire le reste de la semaine. C'était la journée de tout, des démarches, du bricolage. Et alors qu'à l'Éringide, c'est même la journée des enfants, les enfants passaient en Xème position et Dieu, on ne sait pas où. Mais de dire non. Moi, je vois plein de choses à faire, mais le Seigneur, dans sa sagesse, a dit, prenez un temps de repos. Un temps qui vous permettra de vous tourner vers moi, de vous tourner vers les autres, de vous reposer physiquement. Le repos de Dieu est une opportunité que notre Dieu nous accorde afin de venir faire le plein auprès de lui, afin de nous ressourcer intérieurement et d'expérimenter aussi sa fidélité. Quel jour, ou du moins quel moment, allez-vous mettre à part pour vous tourner vers Dieu afin qu'il vous remplisse? La volonté de Dieu pour nous, ce n'est pas que nous soyons secs. Le projet de Dieu pour nous, c'est que nous soyons remplis, et pas simplement remplis un petit peu, remplis, des fois le grec est très très lourd, le style biblique, mais c'est volontairement, remplis de toute la plénitude. Vous vous rendez compte? C'est que nous soyons remplis de toute la plénitude de Dieu. Et cette plénitude de Dieu, elle viendra lorsque nous aurons pleinement la compréhension et la connaissance de l'amour de Christ. Cela peut nous sembler simpliste. Comment le simple fait de comprendre et de connaître l'amour de Christ pourrait-il nous remplir de toute la plénitude de Dieu? C'est peut-être simple, mais pourtant, le Christ vivant et agissant dans nos vies est pourtant la clé de toute notre marche avec Dieu. Et voilà comment se termine notre passage. À celui qui peut faire, comment ? Par la puissance qui agit en nous, et faire quoi ? Infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. C'est en vivant en nous, en occupant nos pensées et notre cœur, que la puissance de Dieu s'exprime et que Christ se glorifie. Je vous propose maintenant un temps de méditation pour que chacun puisse, devant son Dieu, humblement chercher par quels moyens le Seigneur veut-il nous donner d'être remplis de toute sa plénitude. Comment pouvons-nous concrètement nous laisser remplir par lui ?